Il suffit d'imaginer un peu la scène, une situation d'une banalité presque cruelle que, en fait, tout passionné d'équitation a vécu un jour.
Oh oui, je vois très bien de quoi on va parler.
C'est le samedi matin, l'air est encore frais, la rosée brille sur l'herbe du pré, et le cavalier arrive, le cœur léger, sincèrement ravi de retrouver son cheval après une longue semaine.
Ouais, la petite parenthèse de bonheur.
Voilà. Il marche dans l'herbe, le sourire aux lèvres, le licol à la main. Et là,
Le drame.
c'est ça, le drame. Dès que le licol devient visible, dès que la boucle métallique fait un petit tintement, le cheval relève la tête, il pivote tranquillement, il présente son dos, et ben il s'éloigne au petit trot.
C'est terrible comme sensation.
Mais oui, à cet instant précis, au milieu de ce grand pré, le sentiment de solitude du cavalier est absolu. C'est un mélange de frustration et, soyons honnêtes, d'un sentiment viscéral de rejet.
Ouais, un rejet qui est d'une violence inouïe pour l'humain. En fait, on a soudain l'impression d'être perçu comme l'ennemi.
C'est clair.
L'élément perturbateur qui vient gâcher la journée de l'animal. Et toute la charge émotionnelle de la semaine, bah, elle s'effondre face à cette croupe qui s'éloigne. Et c'est une émotion très lourde à porter. C'est précisément ce qui rend cette situation si complexe à analyser à froid quand on aime son cheval.
Et c'est exactement pour ça que notre exploration documentaire d'aujourd'hui s'attaque à ce moment précis. Parce que, à travers les sources qu'on a rassemblées, des fiches d'exercices comportementales et des retranscriptions d'experts, la mission, ce n'est absolument pas de trouver une méthode brutale.
Non, surtout pas de coercition pour coincer l'animal, quoi.
Exactement. Le but de cette plongée, c'est d'adopter une approche bienveillante. Le fameux comprendre avant de corriger. On va décortiquer comment transformer notre présence en une zone de confort pour que le cheval devienne volontaire.
C'est ça, qu'il offre son libre consentement. En fait, il s'agit d'opérer un vrai changement de paradigme.
Un changement de paradigme, c'est-à-dire?
Mais avant même de penser à passer une longe autour du cou, il faut structurer un état émotionnel positif. Il faut réussir à annuler complètement, dans le cerveau du cheval l'idée même de capture.
D'accord, donc on ne va plus au pré pour l'attraper.
Voilà, on y va pour une vraie rencontre. On passe de la proie qui fuit le prédateur à deux individus qui cherchent le contact.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que avant de vouloir modifier le comportement du cheval, il faut s'attaquer à ce sentiment de rejet. Souvent, la frustration nous pousse à dire qu'il le fait exprès, qu'il se moque un peu de nous.
Ah oui, prêter des intentions narquoises à un animal, c'est un réflexe supernaturel quand notre ego est blessé.
Mais c'est faux, du coup.
Totalement. La réalité scientifique s'appuie sur une mécanique beaucoup plus pragmatique, c'est ce qu'on appelle l'ontogenèse.
L'ontogenèse. Alors là, je veux bien une traduction.
Oui, derrière ce grand mot biologique, en fait, se cache juste l'histoire individuelle de l'animal. C'est la façon dont son comportement a été, disons, sculpté par toutes ses expériences passées.
Ah, donc ce qu'il a appris avec les humains avant nous.
C'est ça. Tout au long de sa vie domestique, il a assimilé une équation assez implacable. L'approche de l'humain égale, presque toujours la fin de son repos.
Ouais, c'est l'annonce du travail, de l'effort physique.
Ou des soins stressants, oui. Donc, quand il tourne le dos, il ne rejette pas l'humain personnellement. Il applique juste la solution la plus efficace qu'il connaisse pour rester tranquille.
En fait, c'est exactement comme l'analogie dans nos sources avec l'employé de bureau. Tu sais, l'employé qui voit le nom de son patron s'afficher sur son téléphone un vendredi à 16h55.
Ah oui, cette analogie est parfaite.
Ben oui, l'employé ne déteste pas forcément son patron, mais il laisse sonner dans le vide.
Il fuit.
Il fuit parce qu'il sait que l'appel annonce du travail en plus et la fin de son week-end. Le cheval, ben, c'est cet employé.
C'est tout à fait ça. Et si on pousse cette logique d'anticipation un peu plus loin, il faut ajouter une couche sensorielle très importante.
Sa vision, c'est ça?
Oui, la biologie visuelle du cheval, la manière dont il voit le monde dicte sa fuite. Comme c'est une proie, ses yeux sont placés sur les côtés de sa tête,
Ouais.
ce qui lui donne une vision panoramique incroyable, presque 200 degrés de chaque côté. Il peut voir le moindre mouvement suspect au loin pendant qu'il broute.
Mais par contre, de face, c'est pas terrible, non?
Voilà, sa vision binoculaire, celle qui permet de voir le relief et les distances, elle est super réduite. À peine 60 degrés juste devant son nez.
Ce qui crée des énormes angles morts.
Énorme, ouais. Un angle mort juste sous son nez et un autre dans le prolongement de sa queue derrière lui.
D'accord. Et donc si on imagine notre cavalier du samedi matin, il est pressé, il arrive de face, le regard fixé droit sur le cheval.
Pour le cerveau reptilien du cheval, cette image n'a rien d'amical. un humain qui marche droit sur lui, le regard focalisé.
Sur le prédateur.
Exactement. C'est la signature comportementale d'un prédateur qui a verrouillé sa cible.
Donc le danger pour le cheval, ce n'est pas juste le travail, c'est la géométrie même de notre approche.
Tout à fait.
Du coup, puisque le cheval perçoit cet humain pressé comme une menace vitale, la première étape n'est pas physique, c'est mentale. Comment on doit paramétrer notre propre énergie quand on sort de la voiture, parfois encore tendue par les embouteillages ?
Ben, les protocoles détaillés dans les fiches d'exercice exigent un vrai reset. L'humain doit vraiment baisser son tonus musculaire.
Donc, juste marcher plus lentement ?
Non, ça ne suffit pas. Il faut respirer profondément, expirer pour relâcher les épaules et surtout changer la direction du regard.
Ah, il ne faut pas regarder le cheval.
Fixer les yeux ou l'encolure, ça maintient ce regard de prédateur. Il faut regarder vers le sol, observer l'herbe. Ce sont des signaux d'apaisement qui montrent qu'on n'a pas l'intention de le capturer.
Ouais, mais tu sais, c'est là que notre instinct humain prend le dessus. On veut avoir l'air inoffensif, on regarde l'herbe et en même temps...
On cache le licol dans le dos.
Voilà, on cache le licol derrière son dos, l'air de rien. Pourquoi nos sources disent que cette ruse, c'est une catastrophe ?
Ah, ce qui est fascinant ici, c'est que ça heurte un concept clé, la congruence.
La congruence, d'accord.
Oui, la congruence, c'est l'alignement entre l'état émotionnel interne et l'attitude physique externe. Les chevaux sont des lecteurs d'émotions redoutables.
Ah, ils sentent qu'on ment.
Totalement. Leur survie dépend de ça. Si l'humain fait semblant d'être détendu, mais qu'à l'intérieur son cœur bat à 100 à l'heure, ou s'il cache un objet...
Le cheval détecte l'arnaque.
Voilà, cette dissonance l'inquiète. L'incongruence crée la méfiance. Pour une proie, un prédateur qui marche à découvert, c'est gérable. Mais un prédateur qui se cache ou qui dissimule une partie de son corps, c'est le danger absolu.
Donc il faut garder le licol en vue.
Intentionnellement en vue, oui, sur l'épaule ou à la main. C'est une preuve de sincérité. Si le cavalier n'est pas congruent, le cheval va s'inquiéter.
Bon, l'état d'esprit est bon, le licol est visible. Maintenant, il faut avancer vers ce cheval de plusieurs centaines de kilos sans le faire fuir. Comment on chorégraphie ça ?
Les experts parlent d'approche segmentée. En gros, il ne faut jamais marcher droit sur lui. On avance en courbe ou en zigzag.
Ok.
Et on respecte ces phases biologiques, l'alerte, l'examen à distance et l'examen direct. Donc on avance de quelques pas, on s'arrête, on lui laisse le temps de traiter l'information et on reprend.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand on avance, on met de la pression psychologique. Et soudain, le cheval relève la tête, il tourne une oreille vers nous. L'instinct, c'est de se dire « Super, il me regarde, j'y vais ».
Ah oui, et c'est la pire erreur.
Pourquoi ?
Parce que la mécanique d'apprentissage demande de faire l'inverse. Dès que le cheval offre un peu d'attention, il faut immédiatement s'arrêter et faire un ou deux pas en arrière.
Attends, reculer alors qu'on veut s'approcher, c'est contre-intuitif.
C'est le principe du renforcement négatif, le fameux R-. Et attention, il faut enlever toute notion de punition au mot négatif.
C'est juste mathématique.
Exactement. C'est une soustraction. L'approche crée de la pression, donc de l'inconfort. En reculant, l'humain soustrait cet inconfort. Pour le cheval, ce retrait, c'est une immense récompense.
Tu m'as écouté, donc je te rends ton espace.
C'est ça.
Nos sources donnent une super analogie pour ça. C'est comme essayer de convaincre un ami très méfiant.
Ah oui, j'aime beaucoup cette image.
Bah, si tu forces le contact en marchant brusquement vers lui pour lui faire un câlin, il va reculer d'en mètre. Mais si tu fais un pas en arrière en l'écoutant, ça devient une invitation pour qu'il s'approche.
C'est exactement la même dynamique. Mais l'efficacité de cette danse, ça repose sur un détail crucial, le timing.
Le timing du recul.
Oui, la loi de la contiguïté temporelle. La mémoire à court terme du cheval est très brève. Le retrait de pression doit se faire en moins de 2 secondes pour qu'il fasse l'association.
Donc s'il tourne l'oreille et que je mets 5 secondes à reculer.
Il aura déjà recommencé à brouter. Et il associera le recul au fait de manger, pas à l'attention qu'il t'apporte.
D'accord. Mais en pratique, on fait parfois des erreurs. Si je gère mal ma pression, que j'avance trop vite et que le cheval s'enfuit au galop.
Un départ au galop, c'est un signal d'inconfort majeur. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup trop de pression. Et là, la consigne est stricte. On ne punit pas.
On ne s'énerve pas.
Surtout pas. Crier ou courir après, ça valide sa peur. Il se dit « j'ai eu raison de fuir ce prédateur dingue ». S'il ne peut pas faire d'erreur, il ne peut pas apprendre à faire confiance. On respire, on redescend et on recommence plus doucement.
Bon, disons qu'on a tout bien fait, il n'a pas fui, on est arrivé à côté de lui. C'est le moment critique. Comment on amène le licol sans tout gâcher à la dernière seconde?
Là, on passe au renforcement positif, le R+.
La carotte?
Voilà, la friandise. L'idée, c'est de rendre l'humain hyper attractif. Mais attention au positionnement. Il faut rester aux trois quarts de l'épaule du cheval.
Jamais de face?
Non, jamais totalement de face, à cause de l'angle mort. Et on ne récompense que s'il est calme.
Ah oui, sinon on récompense le stress.
C'est ça. Si on lui donne à manger quand il gratte le sol ou qu'il fouille les poches, on crée des comportements superstitieux. On attend qu'il s'apaise, qu'il basse la tête, et là on donne.
D'accord. Et pour passer le cap du licol en lui-même, parce que les documents listent des erreurs fatales, comme se jeter sur le cheval dès qu'il mange ou lui attraper l'encolure en force.
Le secret, c'est l'habituation. Il faut bidouiller le licol devant lui, le frotter contre son épaule sans intention de l'attraper tout de suite. Et surtout, ensuite, on l'écarte. On montre que l'outil n'est pas un piège.
Et il y a ce détail de fou. Que faire si le cheval, par réflexe, lève violemment la tête quand on passe la longe?
Ah, le réflexe d'opposition inné. Oui, face à une pression, le cheval résiste. Si l'humain s'agrippe à la longe et tire brusquement vers le bas,
ce qui est notre réflexe naturel,
ben le cheval va tirer encore plus fort vers le haut. Il est beaucoup plus puissant que nous.
Donc, que faire?
Garder une légère pression vers le bas, constante, sans forcer. Et dès qu'il cède, ne serait-ce que d'un millimètre, on relâche tout instantanément.
Encore du renforcement négatif.
Exactement.
Tout cela est fascinant, mais les sources précisent bien qu'il faut s'adapter au tempérament du cheval. Ils parlent de droit introverti et de gauche extraverti. Ça veut dire quoi en clair?
C'est une façon d'ajuster notre approche. Un cheval droit introverti, c'est un cheval dominé par la peur, qui va avoir tendance à se figer, à se déconnecter face au stress.
D'accord. Donc, il ne fuit pas forcément, mais il est terrifié.
Voilà. Avec lui, il faut énormément de répétitions, beaucoup de lenteur et de très longues pauses après chaque recul pour qu'il puisse réfléchir et se rassurer.
Et le gauche extraverti?
Lui, il est confiant, curieux, il a besoin de bouger et d'interagir. Si tu es trop lent, il va s'ennuyer et faire autre chose. L'approche doit être vécue presque comme un jeu dynamique pour capter son attention.
C'est vraiment de l'écoute pure, en fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifiait pour ceux qui nous écoutent? Le grand changement, c'est qu'on ne va plus au pré pour attraper.
Non, pour rencontrer.
C'est ça, on cherche le libre consentement. Eh ben, on accepte de perdre quelques minutes aujourd'hui pour gagner des années de confiance. L'adage de nos sources est génial. Prendre le temps pour que ça prenne.
C'est exactement la philosophie de « comprendre avant de corriger ». Et d'ailleurs, si l'on relie cela à la situation globale,
ouais,
on vient de voir qu'un cheval est capable de détecter instantanément notre manque de congruence émotionnelle. Il fuit notre fausse tranquillité.
C'est vrai.
Ça soulève une question fascinante. Si un animal, à plusieurs mètres de distance, lit si parfaitement nos tensions internes cachées, à quel point notre langage corporel subtil, nos émotions réprimées, influencent-ils les relations humaines que nous entretenons tous les jours, sans même que nous en ayons conscience?
Oh waouh, c'est une sacrée question.
N'est-ce pas? Dans une négociation, en famille, nos corps parlent. Et si on ne trompe pas un cheval, on ne trompe probablement pas tant que ça les autres humains.
Ça laisse vraiment songeur. Bon, la prochaine fois qu'un cavalier franchira la clôture de son pré, ce sera un vrai face-à-face avec sa propre honnêteté émotionnelle. Merci pour cette exploration passionnante et à très bientôt pour continuer à décortiquer ce qui nous entoure.